Merci d'être avec nous autres, tout le monde. Salutations à Maxime et Guillaume. Bonsoir, les gars.
Salut.
Comment ça file?
Très, très bien. Très.
Un soir de match, là, même quand vous jouez pas, avez-vous une routine quand il y a un match à la télévision impliquant le Canadien, les gars? Pensez voir ça toute la journée, comme dans le temps?
Ben oui, j'étais excité, j'ai hâte. Ben, Guillaume, non.
Tu y penses-tu dans le temps, Noé?
Guillaume, à quelle heure tu te mettais à penser à ta game? Ah, ils à mon deux. Non, pas mon deuxième chiffre, non.
Moi, non, pour vrai, moi, je focussais... J'aimais pas ça, voir la game trop d'avance ou réfléchir ou essayer de... J'aimais pas ça, j'étais pas bien là-dedans. Moi, je me mettais dans ma game pendant l'hymne national.
Ah.
C'est là que je réussissais à me grounder et à filer bien. Fait que ouais, c'est drôle que Max m'écœure là-dessus, mais c'est vrai.
Toi, Max, ça t'habitait toute la journée? T'étais...
Moi, c'est la veille. J'aimais ça comme me préparer mentalement la veille, tranquillement le soir, en écoutant un show de télévision ou de quoi du genre, de la musique après avant d'aller me coucher. Puis je voulais juste vivre l'expérience la journée du match, tu sais, de juste me concentrer sur jouer au hockey puis pas être stressé.
À partir des expériences que vous avez vécu, là, ça ressemble à quoi la routine d'une équipe et de joueurs? Bon, c'est sûr qu'il y a les routines personnelles, mais disons la routine collective de préparation des matchs. Les défenseurs, les attaquants, le meeting du matin, meeting du soir, le coach parle-tu bien longtemps avant, tu sais, l'heure qui précède le match, y a-tu bien des speeches où ça parle pas fort? Maxime, commence donc, puis Guillaume, tu rebondiras là-dessus.
Ouais. Ben, c'est pas mal semblable là, dans toutes les équipes, surtout une journée de match. Normalement, là, t'arrives à, je te dirais, 8h30 le matin à l'aréna, t'as ton entraînement sur la patinoire à 10h30. Y a des entraîneurs qui font leur meeting pour se préparer pour le match, le vidéo, puis tout ça, des avantages numériques avant d'embarquer sur la patinoire. Il y en a d'autres qui le font après l'entraînement. La plupart du temps, là, quand t'arrives à 5h à l'aréna le soir, là, pour ton match de 7h, 7h30, t'es pas mal prêt, là. Tu sais à quoi t'attendre, qui va jouer, ça va être quoi le système de jeu, puis tout ça. Peut-être quelques ajustements, là, en arrivant, surtout sur des avantages numériques, l'avantage numérique, là, peut-être juste avant le match, faire une petite vision. Mais là, tu arrives à l'aréna, les trios sont sur le tableau, puis c'est pas mal réglé, là, je te dirais, en matinée.
Le gros du travail vidéo, donc, le matin, puis avant un match, là, ou l'heure avant, y a-tu un... Tu sais, on voit toujours, on a peut-être une vision hollywoodesque de comment ça se passe. Y a-tu toujours un gros speech d'un entraîneur avant un match, dans l'heure qui précède, dans les minutes qui précèdent?
Pas de mon côté, non, là, je pense pas. Il y a toujours le fameux speech... de préparation avec certains clichés là, d'être prêt, de sortir rapidement, de, tu sais, toutes ces choses-là, mais le gros speech, je pense que il y a des moments en saison que tu peux sortir un gros speech, mais si, de le faire à toutes les soirs, ça perd son efficacité. Donc je pense que c'est juste de rappeler les points clés qu'on a discuté, soit en avantage numérique, en piqué, défenseur, attaquant, le système de jeu, un petit peu juste faire un recap de tout ce qui se passe au niveau du système de jeu. Mais pour le reste, comme Max a dit, tout a été fait le matin ou tout a été fait 2 heures avant le match là avec les séances vidéo. Moi avec le Wild, je sais que l'avantage numérique, on faisait des vidéos le soir là, juste avant le meeting d'équipe, fait qu'on avait des discussions là par rapport au plan. Ouais, c'était plus frais dans nos mémoires, on aimait ça comme ça. Mais non, il n'y a pas de gros speech chaque soir. Là.
Peut-être que j'en ai mis épais un peu. Là, tu sais, donc, mais il y a quand même. Le coach adresse à la chambre avant chaque match. Là, je veux dire, même si c'est technique ou tu sais, je veux dire, il repasse. Là. Puis les gars, ça leur passe par une oreille, ça leur rentre par l'autre. À un moment donné, ça perd tout son effet.
Ben c'est là, je pense que tu peux séparer une grande équipe à une équipe qui se bat pour une place en séries éliminatoires. Tu sais, les équipes qui se concentrent sur les petits détails puis qui écoutent le coach à la lettre, parce que oui, comme tu viens de le mentionner, Mario, ça peut être dangereux, ça peut devenir une routine, puis ça fait juste partie de la routine dans la journée, puis t'écoutes pas vraiment ce que l'entraîneur dit. Pour moi, personnellement, je l'ai toujours fait parce que c'était ma façon de survivre dans la Ligue nationale, c'était d'être structuré, d'être bien positionné. Les atouts innés là, étaient pas faciles de mon côté, là, le patin puis les mains puis tout ça. Donc je me devais de comprendre le système, mais je pense que les équipes qui sont focus là puis qui analysent les choses de la bonne façon, puis les entraîneurs qui livrent bien le message, c'est là que tu vois la différence. Là, un peu comme on a vu le Canadien contre les Oilers, là, les derniers matchs, tu le voyais sur la patinoire que le Canadien savait où s'en aller comparativement aux Oilers, puis c'est pour ça qu'ils ont gagné.
Exact. Guillaume, t'as envie d'ajouter quelque chose là-dessus?
Non, je suis d'accord. Les équipes qui croient sont dans les petits détails, sont dans les choses les plus minimes que tu peux penser. Puis un entraîneur qui a contrôle de sa chambre, tu vas sentir le respect. Moi, ce que j'aime, puis certains entraîneurs le faisaient, c'est quand on laissait de la place aux assistants. C'est drôle à dire là, comme ça, mais 82 matchs avec la même voix, qui fait les mêmes speeches, qui fait les mêmes points clés. Pour moi, de mon côté, certains soirs, ça me faisait pas des, je veux pas dire décrocher parce que c'est pas respectueux pour l'entraîneur, mais j'aimais ça entendre Kirk Muller parler. C'était une autre émotion, c'était une autre approche. J'aimais ça entendre l'assistant coach nous prendre. Des fois aussi, quand ça va moins bien, c'est en sous-groupe. Moi, j'ai vu souvent des entraîneurs sortir des clips pour le trio, des rencontres individuelles par trio, avoir des discussions avec les... Mais j'aimais ça quand les entraîneurs-chefs laissaient de la place aux assistants. Ça change le mal de place.
Parce que Mario, il n'y a pas de système magique. Là. Tu peux pas dire qu'il y a un meilleur système qu'un autre. C'est vraiment le buy-in, comme on dit en anglais dans le monde du hockey.
Faut y adhérer.
Exactement. Si tous les joueurs s'en vont dans la même direction, même si le système c'est pas le meilleur au monde, tu vas avoir du succès. C'est comme ça que ça fonctionne au hockey. Puis au contraire, tu peux avoir le meilleur entraîneur dans l'histoire du hockey, puis les joueurs, t'en as la moitié qui font leur propre chose là, sur pas sur la même page. C'est là que ça fonctionne pas. Tu sais, je pense à une équipe comme les Maple Leafs en série. C'est une équipe talentueuse. Il y en a la moitié qui font les bonnes choses, l'autre moitié ils le font pas, puis ils sont pas capables de gagner, même s'ils ont une très bonne équipe sur papier.
Les Canucks ont perdu leur dernier match lundi à Calgary 5-2. Justement, donc, ils ont perdu 3 matchs sur 4. Vous avez une idée du genre de discours qu'on tient autour de l'équipe. Là, eux autres, ils veulent absolument rebondir. Vous avez une idée aussi de ce que Claude Julien et ses adjoints disent aux Canadiens, de surtout pas se fier sur le fait que les Canucks ont un mauvais début de saison, les gars. Hein? C'est tout du déjà-vu pour vous autres. Quelque part, je sais pas si ça vient du pareil au même, mais ça doit se ressembler.
Tu peux pas te fier, puis tu peux pas prendre pour acquis non plus. Il y a trop de talent du côté des Canucks. Avec ce qu'ils ont fait dans la bulle aussi, ils ont démontré de belles aptitudes. Je pense que c'est une équipe qui est en pleine progression. De leur côté aussi, on doit apprendre certaines choses. Tu sais, t'as un Elias Pettersson qui a peut-être un début de saison plus difficile, Miller plus difficile, mais tu sais que ces gars-là, ils vont avoir un déclic, puis ils vont repartir. Puis dans une saison de 56 matchs, tu peux pas te permettre, là on commence 3 défaites de suite, tu peux pas en échapper dans les 3 prochaines, 2 autres, là, parce que sinon tu prends trop de retard. À 7 équipes dans la division canadienne, ça va faire extrêmement mal, donc je m'attends ce soir là que les Canucks jouent du gros hockey, puis que les joueurs vedettes prennent ça quasiment comme un match de série, parce qu'on doit aller chercher des points de classement. On peut pas laisser le Canadien prendre de l'avance, puis d'autres équipes aussi prendre de l'avance de la sorte. Là.
Non, moi, c'est particulier de dire ça après 3-4 matchs, là, c'est ouais. rare pareil. Là. T'as 3-4 matchs de jouer, puis là tu penses déjà que hey, ce soir, là, si t'es les Canucks, puis tu perds ce match-là, t'es dans le trouble d'une certaine façon. Tu peux pas perdre ce match-là, puis c'est ça le discours qui est dit à Vancouver. Hein. On va dire, c'est les séries éliminatoires dès ce soir, on peut pas perdre ce match-là. Puis l'autre bord, les Canadiens, ils savent, on dit, si on gagne 2 matchs sur 3 là, contre les Canucks, on vient de probablement éliminer, pas éliminer, là, mais on a une distraction de moins dans notre division parce qu'ils vont avoir un petit bout avant de nous rattraper. Donc, c'est un gros match ce soir.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Le sentiment d'urgence est déjà installé chez toutes les équipes, surtout celles qui n'ont pas gagné souvent, comme les Canucks qui ont gagné à leur premier match. Pourtant, c'était un match plein de promesses. Ils avaient remporté une belle victoire à Edmonton, mais ce qu'on découvre par la suite, c'est que peut-être qu'Edmonton a autant de problèmes qu'eux autres.
Puis la pression va monter aussi, Mario, excuse de te couper. Mais
Ben non, les gars, on est les 3. On va clarifier ça tout de suite. Là. On est au coin de l'îlot chez nous. Vous parlez quand ça vous vient. Okay?
Ben, veux-tu une bière d'abord?
C'est réglé. Ouais, non.
mais ça vient aussi, la pression va monter chez les équipes que toutes les fameux, les experts comme nous, là, ont placé en séries éliminatoires. Tu sais, si on regarde Edmonton, Vancouver, c'est des clubs que, sans être tous dans les séries, parce qu'il y en a juste 4 qui passent sur 7, mais tu sais, Winnipeg, Ottawa, ont peut-être un peu moins de pression que certaines autres équipes. Fait que c'est, ça aussi, ça fait mal quand tu commences à prendre du recul. Les Sénateurs jouent très bien, Winnipeg joue très bien. Là, tu te retrouves que ces matchs-là que tu pensais peut-être plus faciles ou atteignables deviennent des matchs que ils vont être durs à gagner. Puis t'en as échappé contre des clubs qui sont aussi d'un pronostic bien positionné. La pression va monter vite, là. Ça va monter vite la pression chez les équipes.
Je suis pas inquiète, c'est sûr que ça va monter vite. Puis ça monte vite chez les amateurs également, parce que puis même je me demande si on parce que le Canadien a souvent connu des bons débuts de saison, les gars, vous en conviendrez, tu sais, les premiers mois, on dit, c'est plus facile, mais là c'est un contexte complètement différent de toute façon, un calendrier différent, puis sur papier, ils ont une meilleure équipe. Fait qu'on a envie de croire que c'est pas juste un mirage de début de saison là, le Canadien. Là.
Non, puis moi Mario, c'est pas les statistiques, puis c'est pas l'alignement sur papier, c'est la façon qu'ils jouent. Je pense que tu le vois, la structure est là. Peut-être qu'on aurait pu perdre des matchs dans les trois derniers, mais on les a gagnés. Mais si tu continues à jouer de la même façon pour 50 quelques parties, tu vas en remporter plus que t'en perds. Ça, c'est garanti parce que tout le monde contribue. Le gardien, les deux gardiens sont prêts. La défensive est serrée. L'attaque va bien. Dans tout ça, il y a encore des joueurs qui sont capables d'en donner encore plus.
Même je suis content que t'en parles.
À date. C'est, imaginez quand les quatre premiers trios vont fonctionner à plein régime. Edmondson va être plus confortable sur la patinoire. On a une solide équipe.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête, les gars? Parlons du troisième trio. Comme je le disais à Danny tout à l'heure, on n'a pas d'immenses critiques à leur faire. On voit qu'il manque d'étincelles. Je ne sais pas s'il y a une chimie entre les trois. Peut-être davantage entre Kotkaniemi, Toffoli, Armia. Il est inégal. Quand il joue un gros match, on l'adore. Mais donc, ces gars-là ont à peu près pas de points au tableau. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Puis est-ce que tu te mets une pression quand tu es dans la position dans leur position, puis est-ce que le coach leur en demande plus?
Ben oui, c'est sûr, puis tu te mets de la pression à 100%. Tu sais, Kotkaniemi, avec ce qui s'est passé l'an passé, avec son retour à Laval, est allé dans les séries éliminatoires dans la bulle, il a bien performé, les attentes sont plus grandes. Du côté de Toffoli, c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver, veut avoir un impact, il voit des Anderson qui performent, qui surprend tout le monde, puis du côté de Armia, ben veut rester dans l'alignement, veut pas se faire tasser, veut pas être le pion qu'on éjecte rapidement. Fait que du côté de ces trois gars-là, on doit trouver une chimie rapidement. Moi, ce que je trouve difficile, c'est trois gars qui sont pas des gars qui transportent la rondelle d'un bout à l'autre. On n'a pas le fameux gars qui va patiner avec le puck, qui va trouver puis qui va faire la passe parfaite pour le jeu. On a trois gars qui sont habitués d'être alimentés peut-être par d'autres, qui sont capables de se poser. Tu sais, Armia va aller d'un coin, va aller la chercher, mais d'une rondelle à la ligne bleue d'un bout à l'autre, il va se faire attraper puis il va falloir qu'il bouge la rondelle. Donc moi, c'est un peu là que j'ai un problème. Je trouve que quand on regarde le trio, si on regarde les forces et les faiblesses de ce trio là, je trouve qu'une des faiblesses, c'est justement ça, de pas avoir de gars, de joueurs clés, de Suzuki qui traîne la rondelle, ou de Dano ou Tatar qui patine avec le puck. Donc, je trouve qu'il manque peut-être de ça sur ce trio-là.
Et un petit peu de vitesse, peut-être, Maxime?
Ouais, exactement, je m'en allais dire, Mario.
Parce qu'on parlait hier aussi.
Moi et Guillaume, on parlait de ça. Il manque de vitesse. Puis, c'est trois bons joueurs de hockey, mais je trouve que c'est trois pareils, tu sais. Puis là, je veux qu'on soit clair, là, ils ont quand même très bien joué, là. C'est juste qu'on veut s'améliorer.
Pas de dommage,
On recherche la perfection ici, là, cette année. Puis, si tu regardes la construction des autres trios, là, je te donne un exemple. T'as Dano, Gallagher, Tatar. Tu sais, t'as le talent, t'as le gars structuré au centre, puis t'as le travaillant qui est tout le temps en échec avant, puis qui va chercher les rondelles, qui se botte devant le filet. Donc, un beau mix. Après ça, t'as Suzuki, comme Guillaume le disait, transporte la rondelle, les mains, le talent, droit. Le gars qui est fatiguant, qui tourne, tu sais, il est rapide, il est dur à marquer. Puis t'as Anderson qui fait de la place, qui est gros, qui frappe, qui va au filet. Mais là, si tu regardes le troisième trio, c'est trois pareils. T'as trois gros gars, pas trop rapides, qui sont pas on s'entend, là, c'est pas des gars qui transportent la rondelle, qui vont créer un jeu à partir de rien, là, qui c'est surprenant. C'est trois bons joueurs. Peut-être que s'il y a une chose que j'aimerais qu'ils améliorent, c'est de la possession de rondelle en zone offensive. Je pense que c'est trois gars qui sont capables de protéger la rondelle, justement, puis d'avoir des grosses présences où on dit, bon, ben, les gros joueurs ont protégé le puck, là, pendant une minute, puis ça a fatigué les défenseurs de l'autre côté. Peut-être ce style d'impact-là dans le match. Mais moi, ma suggestion, ça serait d'amener un gars comme Byron à gauche, puis de mettre de la vitesse. Si tu mets Byron avec...
T'as Foley à droite ou tu le gardes hors l'aile? Parce qu'il aime bien ça, jouer hors l'aile, par exemple.
Exactement. Peu importe, Mario.
Ça Byron, ça le dérange pas non plus.
Ben, parce que ça prend le numéro 1 qui est en échec avant. C'est ça qui manque. Ouais. Il manque le gars qui affecte la sortie
la relance.
De l'autre côté, la relance et tout ça. Donc, ça prend l'élément déclencheur en échec avant.
Puis là, c'est hors d'ordre, mais ça me faisait penser à quelque chose. Avez-vous déjà écopé d'une amende, les gars, vous autres? D'une amende de la Ligue pour un bâton ou je sais pas. Maxime, ouais. Peut-être
Max,
t'es plus un candidat à ça.
Max doit avoir fait un diving, lui.
Max?
Non, non. Max, il y a eu... précisément c'est pour chier, les suspensions, puis ça a coûté cher, pas à peu près.
Ah oui? T'avais, combien t'en souviens-tu? C'est sûr que tu t'en souviens.
Au total, je dois pas être loin du 80 000, je pense.
Aïe, aïe. Tu sais, là, nous autres, quand on voit un gars recevoir une amende, on apprend qu'un gars une amende de 5 000, on se dit, hey, voyons, c'est une joke, c'est comme des scènes noires, tu sais, parce que le gars, il joue dans la Ligue nationale. Mais, bon, évidemment, tu faisais pas 8 millions par année, Max, là, mais quand t'as reçu la maudite amende, là, ça fait-tu, c'est comme un ticket de prendre auto, ça met pas de bonne humeur pareil?
Ben, ça fait mal, Mario, mais tu sais quoi, je vais te dire, qu'est-ce qui a fait vraiment mal, là, c'est le stress, la rencontre à New York avec le comité de discipline, là. Ça, c'est une étape dans une carrière que je souhaite pas à personne parce que c'est assez intimidant, je vais te dire, là.
Ah oui?
Quand tu rentres dans la salle, t'as les représentants de la NHLPA, t'as les représentants de la Ligue nationale de hockey, mon directeur général qui était Armstrong avec Saint-Louis, mon agent, tous les avocats, puis là, tu t'assieds à table puis t'expliques théoriquement là, ton geste seconde par seconde, puis te demande de dire qu'est-ce qui se passait à tel moment, qu'est-ce que tu penses à faire, puis tout, c'est assez stressant.
Hey, j'ai une question, Max. C'est qui paye ton billet d'avion là-bas?
C'est l'équipe.
OK, non, mais c'est niaiseux comme question, mais je me posais la question pour vrai.
Parce que c'est une cause personnelle. Ben oui,
ben,
c'est ça.
Tu sais, Guillaume, maintenant que tu le demandes, ça me fait penser peut-être que c'est la NHLPA. Je suis pas certain. C'est une bonne question. Je me rappelle pas de ça.
En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas toi qui l'as payé.
C'est ça. J'ai payé l'autre facture, moi, suspension.
Toi, t'as payé une bille.
Exactement.
Mais rappelle-moi le coup que t'avais fait, qui t'a amené là.
C'était sur Dan Boyle, un coup.
Oui.
Sur la civière. C'était plate. T'sais. Puis Mario, moi, dans le fond, j'ai expliqué là-bas, c'est que il y a pas personne là, qui veut blesser personne dans le monde du hockey, puis on n'est pas tu sais, on comprend la game là, ça me tentait pas moi de blesser un homme puis d'avoir une amende aussi salée là, fait que c'était un geste, un accident, on tourne au mauvais moment, moi je finis ma mise en échec, lui il tombe en même temps, la mâchoire sur la bande, puis je le dis tout le temps, tu sais, ça arrive tellement vite sur la patinoire là, je compare ça un peu là, tu sais, quand tu conduis, t'échappes tes lunettes à terre, t'es ramasses, tu te relèves la tête, t'es pas à la même place pendant toute l'autoroute là, ça arrive vite comme ça un accident, puis je pense que des fois c'est un manque d'agilité, c'est un manque de timing, c'est jamais, en tout cas je le crois pas qu'un joueur essaie vraiment de blesser un autre joueur.
Et juste en complément, donc Ovechkin est placé sur la liste des protocoles de la LNH, Orlov, Samsonov et Kuznetsov.
Wow.
C'est pas le même line-up, ça, là, hein?
C'est le temps des affrontés.
Et ça aussi, ça va jouer. Ben oui, c'est ça. Mais ça va jouer cette saison. Il va y en avoir d'autres cas ici et là. Une autre petite question. J'avais pas prévu de vous parler de ça, mais parce que Philippe va me parler de la fin du cauchemar de la présidence de Trump dans quelques minutes, tout à l'heure avec nous autres. Est-ce que ça jase politique dans les chambres de hockey, les gars? Ça arrive-tu? Ben là, remarquez que dans les 4 dernières années, il y avait bien des raisons d'en jaser, ou même dans le temps d'Obama, mais à votre connaissance, c'est un sujet que personne ne parle de ça.
Moi, Mario, je vais être assez direct dans ma réponse, j'embarque jamais là-dedans. Je suis vraiment pas intéressé.
OK, c'est bon.
C'est simple que ça.
Ouais. Guillaume, moi, même affaire?
Ben, j'ai jamais eu de conversation politique vraiment avec des joueurs ou autres. Tout le monde vient d'un peu partout, hein. Fait que les allégeances politiques sont complètement différentes. Puis les façons de gérer les pays, c'est complètement différent. Fait que j'ai jamais eu de conversation par rapport à ça, non.
En auriez-vous eu une si vous aviez fait partie d'une équipe championne invitée avec la Coupe Stanley à aller à la Maison-Blanche?
Probablement, c'est une bonne question. Ça dépend toujours dans quelle situation. Là.
Parce que Philippe dit dans son article qu'il va se souvenir longtemps des pingouins qui sont allés à la Maison-Blanche sous la présidence de Trump, parce que lui, personnellement, a mal pris que Jack Nicklaus, Tiger Woods et d'autres endossent en quelque sorte là, le président. Puis je me demandais si ça avait pu causer des grosses discussions dans certains vestiaires où regarde, tout le monde dit « garde, nous autres, on y va, puis that's it. » puis...
Moi, je pense que ça aurait été aussi simple que ça. Là. Je pense que ma pensée à moi, personnellement, n'aurait pas été vraiment politique. Ça aurait été de suivre le groupe et de vivre le moment là avec l'équipe qui était peut-être probablement... Moi, j'aurais plus vu que j'allais visiter la Maison-Blanche que j'allais visiter le président, par exemple.
D'accord.
Ouais, moi aussi, ça...
Bonne réponse, ça, Guillaume, hein? Je dis la même affaire.
Non, mais c'est la...
c'est la même affaire au restaurant, Mario.
C'est la tradition. Je pense qu'on doit respecter la tradition à quelque part. Puis, mais tu sais, il faut comprendre aussi la réalité. C'est beaucoup plus... patriotique au niveau des États-Unis. Tu sais, les Américains sont extrêmement fiers, puis t'es rouge ou t'es bleu, c'est un ou l'autre. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est différent, je pense, que peut-être au Québec. Donc, je peux comprendre que certains joueurs veulent pas ou endossent pas, puis je pense qu'à quelque part, faut respecter les gens dans la politique, peu importe de quel côté que t'es. Moi, de mon côté, par tradition ou autre, c'est certain que j'aurais profité de l'événement, que ce soit à Trump, Obama ou autre.
Un peu dans l'esprit de Maxime, d'y aller pour visiter, parce que c'est un moment unique. Il y en a été question également quand Tim Thomas n'avait pas accompagné les Bruins de Boston à la Maison-Blanche. Dans une autre présidence, comme quoi c'est pas unique à celle qui s'achève ou qui s'est achevée aujourd'hui. Quelques autres sujets, les gars. Antoine était votre invité, Antoine Roussel, des Canucks de Vancouver, à la Poche Bleue hier, le balado. On a diffusé un condensé. C'était très, très intéressant. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu des propos d'Antoine là, en prévision du match de ce soir? Ou ben, d'autres choses, là?
C'était clair que le mot d'ordre là, dans le vestiaire, c'est que l'heure est presque grave. Il faut commencer à gagner déjà. Je pense que les Canucks, Mario, sont un peu victimes. Là. On parlait avant que la saison commence qu'il n'y avait pas de camp d'entraînement cette année et que les choses arrivaient vite d'une certaine façon. Puis pour le moment, ce qui leur fait mal un peu, je pense, c'est les unités spéciales. Puis l'avantage numérique, puis ces choses-là, ça se pratique. Puis quand tu n'as pas de camp d'entraînement, puis tu commences la saison, puis ça ne fonctionne pas, c'est là que ça devient difficile là, d'essayer de construire là, durant la saison puis de trouver ton momentum. Donc, pour eux, je pense que c'est une question là, d'exécution. Ils ont l'équipe, sont capables, ils ont le talent. Je trouve même qu'ils ont de la profondeur. Ils ont des vétérans sur le troisième, quatrième trio qui sont capables de faire le travail. Je suis convaincu qu'ils vont virer ça de bord parce que je les mets encore, moi, dans le top 4. Dans la division canadienne. Je pense que c'est une bonne équipe.
Ah, OK. C'est bon.
Ouais, puis moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est à quel point un défenseur défensif, il parlait de Tanev tellement... avec beaucoup d'éloges là, hier, dans le sens qu'il disait à quel point il était important, des avantages numériques, son jeu défensif. Il disait même que c'était un des top 5 pour lui défensivement dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'on réalise l'impact de ces gars-là dans un vestiaire quand ils partent. Comment le rôle qu'ils jouent. T'sais, on pense souvent aux défenseurs offensifs puis toutes ces choses-là, mais d'avoir un gars défensivement qui fait le travail, qui bloque des tirs, qui vient en désavantage numérique est utile, mais il nous a fait de la démonstration hier qu'il avait un grand respect pour lui, puis il le voit encore plus depuis qu'il est parti à Calgary. Puis je pense qu'ils l'ont senti dans les matchs que ce gars-là, il a un impact défensivement, peu importe dans l'alignement. Donc, des fois, de pas négliger le gars défensif qui est moins flashy puis qui a peut-être moins de points au tableau, le rôle qu'il peut avoir dans un line-up.
Vous parliez de bloquer des lancers tout à l'heure, comme d'ailleurs Antoine en parlait hier. Max, parce que Guillaume, t'as-tu... Ah, ben oui, Shea Weber dans la Ligue, ça fait assez longtemps. Avez-vous déjà bloqué un tir de Shea Weber?
Mais moi, j'ai eu un problème. Moi, je sais pas c'est quoi, j'ai un réflexe. Quand je vois le gars slapper, la jambe m'allève. C'est bizarre. J'essaie de me mettre devant, mais elle fait le flamingo tout seul. C'est pas que je voulais. Je voulais pas. Je voulais la bloquer, mais non. Non,
c'est un bon truc pareil. Ça passe ça que les coachs t'excusent là, Guillaume.
Non, ils m'ont pas cru.
Mais c'est drôle, Maxime. Toi, t'en as fait une spécialité de bloquer des lancers. Puis je sais pas si tu réussissais à pas te revirer de bord. Parce que même les jeunes, là, le réflexe, c'est de se revirer de bord. Mais ton padding, ta protection est en avant et pas en arrière.
Ouais, ben j'avais pas le choix, Mario, moi, de la bloquer pour garder ma place dans l'alignement. Puis je vais te dire que celle à Shea Weber puis celle-là à Zdeno Chara, ils font mal, mais pas à peu près. Je me rappellerai toujours, je pense que c'était en finale avec les Canucks, contre les Bruins. Zdeno Chara, il a fait un one-timer, là, un lancer sur réception, puis il avait explosé mon protecteur sur mon patin. Je m'étais fait faire des protecteurs spéciaux, justement, parce que je bloquais beaucoup de lancers. Il a explosé, là, comme s'il avait lancé sur une bouteille de bière. Si j'en revenais pas, j'ai dit, bon, mais je pense que le protecteur m'a sauvé une game de plus. Parce que c'était fini si j'avais rien d'autre.
Fait que ça fait un job, ces protecteurs-là. Je me rappelle qu'il y en a qui étaient pas à l'aise avec ça. Il y en a qui, des fois, ça se détachait pendant un match. Mais parce qu'ils ont jamais réussi, à moins que t'aies des gros... Tu vous souvenez des gros patins moulés, là? Vous êtes trop jeune pour ça. Peut-être les Munari, les Langes, des trucs du genre. C'est quasiment une bottine de ski sur l'âme dans le temps. Mais je veux dire, il y a pas de patin qui peut encaisser ça, là, sans que tu ressentes la blessure. Fait que... Tant mieux pour les protecteurs. Mais il y en a beaucoup qui en portent pas. Moi, je l'obligerais presque, Maxime, si je voulais protéger mes joueurs.
Ben ça, il y a un moment donné, je pense que c'était avec Bob Gainey, on en avait discuté avec tous les joueurs dans le vestiaire. On avait parlé de protecteurs sur les patins, puis de bas là, anti-coupeur pour pas se faire couper un tendon ou quelque chose. Je pense que c'est venu sur le sujet de discussion parce que tu sais, on s'entend là, pour une équipe, tu payes un gars 5, 6, 10 millions. Pourquoi pas aller chercher toute la protection nécessaire puis en ajouter pour être certain d'en protéger le plus qu'on peut. Puis je suis encore surpris honnêtement que certains joueurs jouent avec des bas. qui protègent pas les coupeurs, puis c'est pas tous les joueurs, par exemple, en désavantage numérique, qui ont les protecteurs sur les patins.
Et ces bas-là, je pense, si ma mémoire est bonne, ont été inventés. Je sais pas si ça existait avant, là, mais je sais pas si vous vous souvenez de l'image de la patineuse de vitesse sur courte piste, Annie Perrault, qui avait subi une violente chute dans laquelle elle avait été coupée, là. C'est, écoute, moi, je l'ai vu de proche, parce que des gens que je connais, une méchante coupure, là, de plus qu'un pied, là, en arrière de la jambe, puis après ça, ils ont inventé ça. En tout cas, ils l'ont utilisé en patinage de vitesse, puis la technologie a été récupérée dans la Ligue nationale, et tant mieux, tant qu'on garde nos gars en santé, ben on préserve aussi la qualité du show. Un gars qui donne un bon show pour les Red Wings de Détroit en ce début de saison, Bobby Ryan, mais avouez que c'est un défi, un pari tentant. Je sais pas s'il y a beaucoup de clubs qui se sont intéressés à lui, mais ça n'a jamais été un méchant joueur de hockey. Une fois que le gars a réglé ses problèmes personnels...
Repêché deuxième au total, tu sais, après Sidney Crosby, dans mon année de repêchage, Bobby Ryan, c'est un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu. Puis là, il y avait des démons, il y avait des problèmes, il n'a pas été lui-même depuis plusieurs années. Là,
4 buts en 3 matchs.
Là, se retrouve, tu sais, sur l'avantage numérique, Larkin, Bertuzzi, Matt Manta à défense, puis Dan DeKeyser, puis t'as Bobby Ryan. Il est dans une position de succès. Le gars se sent bien. Il est encore en bonne forme physique. Moi, je pense que Bobby Ryan est un atout important pour les Red Wings, puis je serais pas surpris qu'il aille chercher une vingtaine de buts, même si c'est juste 56 matchs.
Maxime?
Ben moi, Mario, j'ai joué avec lui à Anaheim. Je suis tellement content pour le gars. T'sais, moi, je pense sincèrement que tout le monde a droit à une deuxième chance.
Ben, j'espère.
Il a eu de la difficulté. Il a réglé ses problèmes. Il a pris contrôle de sa vie lui-même. Il a réglé les choses. Là, il a du succès. C'est toute une machine de hockey, hein, ça. C'est un gros bonhomme qui a des mains, capable de patiner, capable d'être physique, être robuste quand c'est le temps. C'est un joueur, je pense, quand il est à son 100% là, en séries éliminatoires, c'est le gars que tu vas avoir sur tes deux premiers trios à droite. Bon lancé, belle attitude, bon coéquipier. Il a réglé les choses, ça va bien. Puis je suis content, tu sais, qu'il soit dans une équipe peut-être en ce moment où il y a un peu moins de pression là que de jouer dans une grosse équipe qui aurait peut-être donné une chance pour aller chercher côté profondeur. Là, je pense qu'il va s'amuser, il va jouer, il va avoir du temps de glace. Ça a bien commencé pour lui. Puis je pense que dans sa situation là, d'avoir un bon départ puis du positif dans sa vie, c'est très très bon pour lui.
Les gars, je voulais parler de Keith Yandle. L'autre jour, sa séquence de matchs consécutifs, qui est actuellement la plus longue active dans la Ligue nationale, a failli prendre fin parce que Joel Quenneville l'avait rayé de l'alignement. Puis finalement, ben, une situation de blessure ou quoi que ce soit a fait en sorte qu'il a joué un match. Il a compté d'ailleurs un but ce soir-là. Mais en même temps, bon, puis là, les gars devaient trouver que c'était pas très, très chic de faire ça à Yandle. Je sais pas comment les joueurs réagissent à une décision comme ça d'un entraîneur. Mais en parallèle et à l'opposé totalement, en fin de saison l'an passé, quand les entraîneurs et le personnel hockey des Panthers de la Floride ont fait le bilan de la saison, les joueurs, on demande l'opinion des joueurs sur d'autres joueurs, puis il y en a beaucoup qui, sous le couvert de l'anonymat, ont dit « Ouais, mais Yandle, dans sa zone, c'est dangereux. » Tu sais, je résume ça bien simplement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit exactement.
Il est
très dangereux dans sa zone. Sauf fait que c'est-tu dur d'être toujours honnête à 100% envers la direction, envers les coéquipiers? C'est sûr que tu veux pas que ça s'irait à raide, mais si le gars est une nuisance plus que quelqu'un qui t'aide à gagner des matchs...
Ouais, ben, je vais te dire quelque chose, Mario, là, il est peut-être dangereux dans sa zone. Mais c'est encore plus dangereux quand tes coéquipiers se parlent dans le dos comme ça. Le problème il est probablement plus gros dans le vestiaire que dans sa zone. On va te le dire tout de suite là, parce que de se poignarder comme ça dans le dos entre coéquipiers, c'est pas très bon. Puis je sais pas c'est qui a dit ça, mais moi je l'aurais pas dit, ça c'est sûr et certain.
C'est direct comme commentaire, puis j'aime ça. Guillaume, as-tu un petit quelque chose à ajouter là-dessus? Est-ce que tu loges à la même enseigne?
Ouais, non, je suis d'accord avec Max là-dessus. Ça démontre peut-être de certains problèmes du côté des Panthers. On a de la misère à gagner, on a de la misère à jouer avec constance. Peut-être que le problème est plus grave que juste du talent puis de la cohésion puis de la chimie. Il y a quelque chose de plus qu'on doit trouver le bobo puis que d'autres joueurs disent que c'est lui ou que c'est ça le problème. J'endosse pas ça, je suis pas d'accord avec ça, mais il reste qu'au final c'est arrivé puis on doit trouver une façon après ça de gagner des matchs. Puis les Panthers c'est difficile depuis quelques temps.
Vous avez entendu parler de la fameuse anecdote. Mike Babcock est revenu là-dessus parce que là, il remplace Mike Milbury dans le rôle d'analyste à NBC. Là, ce qu'il avait fait chez les Leafs de Toronto, il avait demandé à Mitch Marner de lui donner une liste des selon lui, là, comment les gars, qui donnait le meilleur effort dans l'équipe. Puis lui, c'était bien placé sa liste. Babcock l'avait pris de court, avait mis ça devant la chambre. Bon, il essayait de s'expliquer. C'est ordinaire, ses explications, mais je sais pas si vous avez vu. Vous avez eu de l'info là-dessus, mais pensez-vous que Babcock est brûlé ou il pourrait revenir dans la Ligue?
Moi, je pense qu'il va revenir un jour, Mario, avec tout ce qu'il a accompli dans le monde du hockey. Est-ce que ça a été une manœuvre malhabile de sa part? Ça, je sais pas vraiment ce qui se passe à l'interne là, chez les Maple Leafs, mais ce que je peux dire, c'est que ils ont eu de la difficulté avec d'autres entraîneurs. Il y a toujours le même problème dans leur jeu, c'est qu'on n'est pas dédié à la tâche. On sait jamais quelle version des Leafs va sortir à chaque soir. Est-ce qu'on va avoir la version où on est en plein contrôle du match puis on utilise notre talent, ou on a la version où ça tourne en zone neutre, où on se fout de notre défensive, où on se sacrifie pas pour l'équipe? Moi, je te dis, c'est la dernière année pour eux. Si ça fonctionne pas, il va falloir détruire le noyau, parce que c'est vraiment, mon opinion à moi, c'est un problème d'attitude à Toronto. C'est pas un problème de coaching ou dans l'alignement.
Il devrait aller chercher Yandel.
Hey les gars, une petite prédiction en terminant là, ce soir.
Moi, je vais y aller avec un match serré, un 2-1 pour le Canadien.
OK, Guillaume?
Moi, j'ai gagé Canadien pas mal depuis le début. Je vais y aller avec un Canucks ce soir. Elias Pettersson, 2 buts.
C'est fou comment qu'on balance les affaires dans notre tête quand ça va trop sur un bord. On dit que normal.
On veut pas y croire. On veut pas y croire, c'est trop beau.
Exactement. Maxime, je vais te suivre. Puis un but dans un filet désert, 3-1 Canadien ce soir. Merci les gars. Bonne soirée.
Salut.
Bon match. Bye bye. Vous allez regarder ça en direct. Vous pouvez me texter jusqu'à 1h du matin, il n'y a pas de problème.
On s'en occupe.
C'est le comptoir de cuisine.
Ciao. Oui, monsieur. Salut. Salut les gars. OK, c'était les gars de la poche bleue.